Merci Enrique, c'était encore une belle émission que tu nous as proposée avec Bibliosoes sur l'antenne de Graphite. On continue bien sûr le programme de ce samedi, j'allais dire samedi matin, non, samedi midi, hein, 12h01 précisément. Bon appétit si vous êtes à table. Et on va poursuivre effectivement avec une heure de science et de musique, c'est Biotine sur l'antenne de Graphite.
Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Et oui, encore pas mal d'actualités scientifiques que nous allons voir dans cette émission. Je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le samedi 23 mai. Je m'appelle Jean-Noël et puis donc depuis plusieurs années sur cette antenne, nous nous retrouvons, j'espère fidèlement, les samedis à 12h, le mardi matin pour la rediffusion à 10h sur l'antenne de Graphite. Pour parler un petit peu d'actualité scientifique, il faut dire que l'actualité scientifique ces dernières semaines a encore été bien bien chargée. On parlera bien sûr de l'antivirus, on parlera d'Ebola et on va parler aussi un petit peu de la technologie qui s'invite de plus en plus. Alors ça a toujours été le cas au niveau des guerres d'ailleurs, parce que là on est quand même assez servi en ce moment. La technologie a toujours été présente et là il y a encore aussi pas mal de choses. Alors on va pas du tout juger de l'aspect géopolitique du sujet, mais plutôt ici s'intéresser sur l'aspect plus purement technique, technologique et scientifique, bien évidemment. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, dans l'Aisne, dans l'Oise, dans la Somme. Graphite.net pour ceux qui nous écoutent un petit peu partout, hein, peut-être même dans la Station Spatiale Internationale, je n'en sais rien, parce qu'on devrait, si on a le temps, aussi la possibilité de parler de Sophie Adnaud, bien sûr. Et puis vous nous écoutez avec les podcasts que vous pouvez récupérer sur le site graphite.net et tous les réseaux sociaux, bien évidemment. J'ai même pas fait attention s'il y avait une petite actualité à vous proposer aujourd'hui au niveau de Graphite. Oui, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Il y a un petit concert qui allait être pas trop mal dans quelques semaines. On verra ça, bien sûr. Pour l'instant, on est le 23 mai. Alors, le 23 mai, je regarde toujours au niveau de l'éphéméride s'il y a quelque chose d'assez intéressant à évoquer au niveau international. Vous savez, des journées de sensibilisation à telle ou telle maladie, ce qui permet justement de pouvoir aborder les avancées médicales sur certains sujets. Aujourd'hui, il n'y a rien. Aujourd'hui, le 23 mai, c'est la journée mondiale de la tortue. Donc, je vous le dis, vous en faites ce que vous en voulez, je n'en sais rien. Journée mondiale de la tortue. Pourquoi, à quoi, alors je ne dirais pas à quoi sert la tortue, mais pourquoi faire une journée mondiale de la tortue pour sensibiliser peut-être, je n'en sais rien. Donc voilà, si aujourd'hui vous avez l'occasion à un moment d'évoquer dans une conversation que c'est la journée internationale de la tortue, je trouve que ça vous donne, je ne sais pas, un petit côté particulier à une conversation qui parfois peut être un petit peu ennuyeuse. Et là, vous dites, mais tu ne sais pas qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de la tortue. Voilà, essayez de placer ça, c'est le défi que je vous propose aujourd'hui. En 1995, le 23 mai, c'était l'annonce officielle du langage de programmation. Ça va être compliqué cette journée, je sens. C'est le soleil, là, c'est la chaleur là, qui m'accable. 95, 23 mai, annonce officielle du langage de programmation Java. Ce programme de programmation a donc 31 ans aujourd'hui. C'est là qu'on se dit que finalement, on vieillit. C'est assez effrayant. Naissance, le 23 mai 1908 de John Bardeen. C'est un physicien américain. Il a eu le prix Nobel de physique en 1956 avec William Shockley et Walter House Breton. Ils ont tous trois obtenu ce prix Nobel de physique pour leurs travaux sur les semi-conducteurs. Et puis, John Bardeen, eh bien, il a été également lauréat du prix Nobel de physique 16 ans après, en 1972, pour ses travaux sur la supraconductivité. Il a partagé ce prix Nobel avec Leon Cooper et John Schiffer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que John Bardeen est la seule personne à avoir reçu 2 prix Nobel de physique. Quand même, voilà, le noter. C'est pas nécessairement un nom qui est passé à la postérité. Enfin, John Bardeen, peut-être vraiment pour ceux qui sont de ce domaine-là, de la supraconductivité des semi-conducteurs. Il est décédé en 91, mais il a reçu, voilà, 2 fois le prix Nobel de physique. C'est quand même assez important de le mentionner à l'occasion de cette éphéméride. Décès le 23 mai 1857 d'Augustin Louis, baron de Cauchy, mathématicien français. Il est membre de l'Académie des sciences, professeur à l'École polytechnique. Il a quand même à son actif 800 parutions, 7 ouvrages, enfin, c'est quand même pas mal. Il est l'un des mathématiciens les plus prolifiques de l'histoire. Ses recherches couvrent l'ensemble des domaines mathématiques de l'époque, donc on est quand même au début du 19e siècle. Son œuvre a fortement influencé le développement des mathématiques de ce siècle-là, hein, le 19e, mais le fait qu'il publie ses résultats dès leur découverte sans y appliquer toute la rigueur souhaitée et aussi un petit peu une négligence dont il a fait preuve concernant certains travaux, eh bien tout ça entache un peu son prestige. Donc voilà, il est peut-être allé un petit peu trop vite ou il n'a peut-être pas eu le recul nécessaire. Augustin Louis, baron de Cauchy, qui est donc décédé le 23 mai 1857. C'est assez intéressant aussi d'évoquer ce genre de personnage parce que quand on parle du 18e, 19e siècle, enfin plutôt 18e, mais 19e, c'est encore un petit peu des personnages scientifiques qui touchent un petit peu à tout. Lui, il se focalise quand même sur les mathématiques, mais voilà, il avait une façon de pouvoir produire un petit peu tous ces résultats d'une façon un petit peu appropriée, inappropriée justement, et bon, ça entache un petit peu tout ça. Je voulais juste, avant de commencer à évoquer les différents sujets que je vous ai présentés tout à l'heure, revenir sur ce qui s'est passé cette nuit. La fusée la plus puissante de l'histoire s'est arrachée de son pas de tir dans une démonstration spectaculaire de puissance et de technologie. C'est pas moi qui parle, c'est SpaceX qui s'extasie un petit peu sur le site space.com. J'ai vu ce matin cet article de Courrier International qui revenait donc sur ce nouvel essai réussi de la fusée Starship de SpaceX qui a donc lancé hier soir la toute dernière version de sa fusée géante Starship depuis un second pas de tir récemment achevé au sein de son complexe Starbase. On est au sud du Texas, hein, ça se passe aux États-Unis. Ça a été reporté d'une journée en raison de problèmes techniques et le décollage a donc eu lieu à 18h30 heure du Texas. Donc c'était minuit 30 en France cette nuit et ça a propulsé vers le ciel cet engin assez énorme parce qu'il fait quand même 124 mètres de haut, c'est quand même pas mal. C'est ce que raconte le site de SpaceX. En fait, il s'agissait de la première mission Starship depuis octobre 2025, ainsi que du tout premier vol de cette version 3 de Starship. C'est une mouture de nouvelle génération de la fusée. Elle est caractérisée par une refonte complète de sa conception. Et l'idée, c'est bien sûr de faire évoluer le véhicule vers des missions opérationnelles. Le vol, il a duré 65 minutes. Il s'est globalement bien déroulé, nous dit-on. Il a connu plusieurs imprévus entre guillemets, hein, c'est ce que observe le site SpaceX.com, je vais y arriver. L'un des moteurs du propulseur, notamment, s'est arrêté peu après le décollage, et tandis que Starship, l'étage supérieur, a lui aussi perdu l'un de ses six moteurs principaux pendant l'ascension. Ça a un petit peu altéré son orbite, mais Starship a néanmoins réussi son retour sur Terre en se posant à la verticale. C'était dans l'océan Indien, avant de basculer à la surface de l'eau et d'exploser, c'est ça qui est un petit peu dommage, des manœuvres prévues et fortes spectaculaires par contre, donc ils avaient anticipé le coup, bien sûr. En revanche, comme il était privé de l'un de ses moteurs, eh bien le propulseur, il a raté son amerrissage, c'est ça qui est un petit peu dommage, s'écrasant plus violemment que prévu dans les eaux du golfe du Mexique cette fois. Alors cela n'a pas empêché les équipes de SpaceX d'exploser de joie. Par contre, à la fin du vol, et le patron donc de la NASA, Jared Isaacman, s'est félicité sur le réseau social X. Il a dit « SpaceX et Elon Musk ont un sacré décollage, bravo, de Starship version 3 ». En tout cas, la NASA, elle compte, hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre, elle compte sur Starship pour servir de module lunaire habité pour son programme Artemis. L'idée, c'est d'établir à terme une présence humaine permanente sur la Lune. On se souvient que c'est un petit peu un objectif que l'on souhaite. Elle a mis donc SpaceX en compétition avec Blue Origin, qui est la compagnie spatiale de Jeff Bezos, et qui développe son propre engin qui s'appelle Blue Moon. L'entreprise qui sera prête la première va remporter le contrat. Donc, c'était important pour SpaceX de montrer son avancée sur le sujet. En tout cas, ce 12e vol d'essai était d'autant plus important pour Elon Musk que SpaceX a déposé cette semaine une demande d'introduction en bourse qui pourrait avoir lieu dès le mois de juin. C'est ce que nous informe l'agence Bloomberg. La société qui affiche quand même des pertes de plusieurs milliards de dollars espère lever jusqu'à 75 milliards de dollars sur la base d'une valorisation qui pourrait atteindre 2000 milliards de dollars. On est sur des montants qu'on n'arrive même pas à bien matérialiser quelque part. C'est assez faramineux. Mais pour gonfler sa valorisation, SpaceX a présenté plusieurs alternatives et initiatives ambitieuses qui nécessitent que son lanceur Starship soit pleinement opérationnel, bien évidemment. Et parmi donc ces initiatives figure le déploiement en orbite de près d'un million de satellites destinés à servir de centre de données pour l'intelligence artificielle. C'est la course à l'espace et c'est la course à l'espace au niveau privé. C'est ça qui est quelque part assez inédit et assez intéressant. Nous ne sommes plus sur les grandes nations qui développent cela. On est maintenant sur des grandes sociétés qui se mettent en compétition et donc... Starship apparaît avec un peu d'avance sur le papier. On attend de voir bien sûr ce que va mettre en place Jeff Bezos. Mais c'est passé cette nuit. C'était vraiment l'actualité pure scientifique qu'il fallait évoquer dans cette émission, bien sûr.
Jean-Noël Moreau, Biotine, sur Graphite.
Et puis on va partir cette fois en Ukraine parce que ce qui se passe au niveau de la guerre entre l'Ukraine et la Russie est assez intéressant d'un point de vue technologique. Entendons-nous bien, nous sommes ici dans une émission de science, donc on va s'intéresser uniquement à ce sujet-là et ne pas se focaliser bien sûr sur le drame que représente la guerre bien sûr. Mais d'un point de vue technologique, c'est assez inédit. Et là, on a quand même passé un cap assez intéressant. En avril dernier, un télépilote ukrainien, il a pu diriger un drone qui était situé à 2000 km de sa position. Il a dirigé un drone, il était à 2000 km du drone. C'est ça qui est assez intéressant. Sur la vidéo qui est communiquée par le constructeur de drone ukrainien qui s'appelle Wild Hornets, eh bien on voit l'opérateur manipuler une radio-commande branchée à un PC portable sur laquelle la vue subjective du drone est affichée. Et c'est une véritable prouesse qui permet à la fois d'éloigner les télépilotes du champ de bataille et de gérer un petit drone à distance et de façon fluide, comme s'il s'agissait d'un grand modèle. La grosse différence, c'est que c'est infiniment moins cher, bien évidemment. Contrôler un drone sur cette longue distance, c'est pas simple. Et c'est bien pour cela que la spécialité de télépilote est l'un des métiers les plus dangereux sur le front. Le problème, c'est que pour augmenter l'éloignement avec le drone, il faut essayer de parvenir à conserver la latence, donc la possibilité de pouvoir transmettre les données, et tout en affichant également un flux vidéo fluide en haute définition pour pouvoir agir. Si on ne voit rien de ce qui se passe à distance, ça va être difficile de pouvoir contrôler le drone. Alors la question, c'est de savoir comment cette société Wild Hornets, qui il y a 3 ans encore assemblait des drones de façon un petit peu artisanale dans un garage, comme nous le précise cet article de Futura Science, comment cette société est-elle parvenue à cet exploit? Tout repose en fait sur une technologie qui s'appelle Hornet Vision Control. Ce système, qui est donc propriétaire, a été développé en interne. Habituellement, il y a une liaison radio traditionnelle entre le drone et le poste opérateur, en tout cas la radio commande, et cette liaison, elle plafonne au bout de quelques kilomètres. Et donc, pour aller un petit peu plus loin, la liaison, elle est effectuée par le réseau Internet. Et donc, le drone échange ses données via des relais cellulaires 4G, 5G, comme notre téléphone portable, où il y a également des liaisons satellitaires qui sont mises en place, des liaisons satellitaires à faible latence du style Starlink. Donc, on retrouve encore Elon Musk dans le système. En tout cas, les données, elles sont également transmises par la fibre du réseau ukrainien, et c'est globalement ce qui explique le maintien d'une faible latence. Eh bien, la difficulté, c'est que plutôt que d'utiliser un petit peu du streaming classique, donc un flux continu, avec l'inconvénient de pics de latence imprévisibles, la société Wild Hornets a choisi de miser sur des variantes couplées à une correction d'erreurs proactives. Bref, avec ce style de protocole, les données qui sont un peu perdus, tout ça est reconstruit de façon mathématique à la volée, sans retransmission. Et c'est de cette façon que la latence, elle peut rester stable, même quand il y a une dégradation de la liaison. C'est ça qui est assez intéressant. Il reste un problème physique un peu irréductible, c'est qu'il y a un délai entre le moment où on donne l'information et le moment où c'est reçu par le drone et que le drone redonne ensuite son information. Il y a un aller-retour qui est assez long, 80 millisecondes de distance. C'est évidemment assez court pour nous, mais dans le cas d'un drone qui vole à plus de 300 km/h, eh bien, ça donne quand même un délai qui représente une distance pouvant aller jusqu'à 8 mètres. Alors quand vous voulez avoir une précision et que vous avez 8 mètres de décalage entre ce que vous voyez et instantanément et ce qui se passe en réalité au niveau du drone, ça peut être compliqué. C'est pas rédhibitoire, c'est pas idéal non plus. Et bien ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est qu'on a ajouté une intelligence artificielle embarquée dans le drone. Parce que cette intelligence artificielle, elle assure la navigation en local, sans attendre les ordres du pilote. Et même si ce temps de latence, elle dépasse 100 millisecondes, eh bien, c'est pas non plus une catastrophe. Et c'est ça qui est quand même assez fascinant, c'est que, par conséquent, l'intelligence artificielle qui est intégrée dans le drone, eh bien, permet pour le travail du télépilote d'avoir un guidage un petit peu en phase terminale assistée. Ça veut dire que l'opérateur conserve la main sur les décisions clés essentielles et les contrôles totalement essentiels, mais le drone peut de toute façon évoluer pratiquement de manière autonome grâce à cette intelligence artificielle embarquée. Et au niveau stratégique, cette technologie maison, elle change la donne parce qu'elle met à l'abri bien sûr les télépilotes et elle leur permet également de gérer plusieurs drones et de couvrir des zones de front bien plus étendues qu'auparavant. Alors il s'agit plus vraiment d'expérimentation parce qu'on est vraiment sur des choses concrètes. On est même au point que cette société Wild Hornet a annoncé le déploiement en série de ce système après plusieurs mois de tests de combat concluants. Les progrès ont d'ailleurs été foudroyants, nous dit-on. Les premiers essais étaient limités à une trentaine de kilomètres et donc on est désormais depuis quelques semaines à une distance qui a été étendue à 2000 kilomètres comme je vous le disais tout à l'heure. En plus de cet atout, eh bien, cette architecture délocalisée est également invisible et également bon marché, eh bien, ça semble difficile, voire impossible à neutraliser par l'armée russe. Alors, on sait très bien que pour chaque innovation, eh bien, les deux adversaires finissent toujours par trouver des parades. Donc, il y aura bien évidemment, au niveau technologique, une parade qui va être trouvée au niveau russe. Mais en tout cas, niveau ukrainien, là, d'un point de vue technologique, on est quand même sur une avancée assez faramineuse de ces drones contrôlés à 2000 km de distance et avec une intelligence artificielle qui permet de gérer un petit peu les actions banales, entre guillemets, je trouve pas le mot, mais voilà, les actions qui leur permettent de pouvoir gérer sur place, mais les décisions finales sont bien prises par le téléopérateur. C'est ça qui est assez intéressant et que je trouvais important d'évoquer dans cette émission. On fait une petite pause musicale, ça va nous faire du bien également, à moi aussi, ça me permet de retrouver ma voix, j'ai l'impression qu'elle commence à s'en aller, et on va se retrouver juste après ce titre pour parler de l'antivirus et de voir un petit peu les dernières informations sur ce sujet. À tout de suite.
Fil coupé pendu sous le combiné. Rome, clope, rancune, j'ai tout combiné. Le sang qui bout comme une marmelade. Faut être un sacré con pour me dire relax. Dites à mon destin de mordre le tir. Oh, je vais lui refaire la gueule au fer 7. Rien n'est dans le bon ordre, faut tout inverser. On fête mon départ, pas mon anniversaire. Le ciel est triste, que du gris dans la ville. Envie de prendre un acide et tout colorier. Qu'est-ce qu'on s'emmerde, ah ouais c'est plus comme avant. La ville lumière se repose sur ses lauriers. Discret casquette, baissée sur la cabeça. Le ciel devient bleu, mais je peux regarder que mes sapes. Prends plus d'appels, je lis plus aucun message. Être has been, ça rend naïf. Bah ouais, je pouvais qu'aimer ça. personne, ne le comprendra personne. Je suis le mauvais ordre en personne, je me sens moi-même comme personne. Fallait que je tombe sur cette ville, 8 milliards d'autres chemins. Fallait que je tombe sur cette vie, et je sais qu'on est fait pour s'aimer. Mais j'ai quand même peur de passer à côté de mieux. Y'a jamais assez de miel sur le MCMN. Faut que je profite, c'est le dernier samedi de la semaine. Faut que je profite, c'est le dernier samedi de la semaine. En sourdine, contrôle de soi 1 sur 10. Retiens le monstre à l'intérieur, repousse la date de sortie. Je ressemble tellement à ce monde, j'ai les névroses assorties. Envie de planter quelques tomates et de faire du son sans ordi. Fil coupé, pendu sous le combiné. Rhum, clope, rancune, j'ai tout combiné. Le sang qui bout comme une marmelade. Faut être un sacré con pour me dire relax. Dites à mon destin de mort le dit. Oh, je vais lui refaire la gueule au verset. Rien n'est dans le bon ordre, faut tout inverser. On fête son départ, pas son anniversaire.
Ti, c'était l'homme pâle sur l'antenne de Graphite.
Biotine. Jean-Noël Moreau.
Ah là là, l'antivirus, on en a parlé il y a quand même, quoi, il y a à peu près 15 jours, on ne parlait que de ça, et puis maintenant on n'en parle plus, bah oui, parce que maintenant il y a plein d'autres choses, hein, il y a Patrick Bruel et ainsi de suite, mais genre, une actualité chasse l'autre, et on n'a pas le temps de faire un petit peu, de prendre le recul nécessaire face à ce genre de situation, bien évidemment, donc... Je reviens sur ce sujet-là avec différents articles que l'on trouve sur Futura Science concernant l'antivirus. Hein. Tout est parti de ce paquebot qui s'appelle MV Ondius, qui transportait environ 150 passagers, membres d'équipage de 23 nationalités. Il part donc au niveau Pays-Bas. Hein. L'idée, ça va être un petit peu de les désinfecter complètement avant une nouvelle opération. En France, 22 cas contacts ont été identifiés après les vols de rapatriement et placés sous surveillance pendant 42 jours. 6 semaines, hein, c'est vraiment, on est dans le principe même de la quarantaine justement. Cette situation, elle ravive bien sûr les souvenirs des débuts de la Covid-19. Hein, pourtant, le virus impliqué dans cet épisode n'a rien de nouveau. Jusqu'au foyer survenu à bord du navire de croisière, peu de personnes avaient entendu parler de cet antivirus sud-américain capable de provoquer des formes pulmonaires grave avec une mortalité pouvant atteindre presque 50% dans certains clusters. Et le paradoxe, il intrigue, comment un tel pathogène a-t-il pu rester dans un angle mort de la surveillance mondiale ? Une étude publiée dans la revue Virology en 1996, donc il y a 30 ans, documentait déjà plusieurs cas de transmission interhumaine et c'était en Argentine. Le plus important cluster documenté remonte à 2018-2019 dans la région de la Patagonie argentine. Une étude publiée dans la revue New England Journal of Medicine avait alors confirmé cette étude qu'il y avait plusieurs transmissions interhumaines successives après un rassemblement local, ce qui avait entraîné le décès de 11 personnes sur 34 cas confirmés. Donc on était quand même sur un tiers de décès, c'est quand même un ratio assez important, bien sûr. Pour de nombreux spécialistes, cette rareté explique en partie pourquoi le virus est longtemps resté dans un angle mort de la surveillance mondiale. Contrairement au Covid ou à la grippe, eh bien le virus des Andes semble nécessiter des contacts très étroits et prolongés pour se transmettre entre humains. Les contaminations surviennent surtout dans des contextes familiaux ou de promiscuité importante. Ce n'est pas le Covid, n'oublions pas, chez des couples qui étaient proches et d'une hôtesse de l'air qui a pris en charge la femme malade qui est décédée peu après, nous obtenons des résultats de tests négatifs. Cela devrait convaincre presque tout le monde maintenant que c'est un virus dangereux, mais seulement pour la personne qui est vraiment infectée. Et le risque pour la population générale reste absolument faible. C'est ce que a déclaré le porte-parole de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, Christian Lindner. Ok, c'est ce qu'il nous dit. En tout cas, il y a un petit peu de panique. Mais cette dispersion internationale, parce que finalement, tout le monde a été rapatrié dans les quatre coins du globe. Quatre coins du globe, d'ailleurs. C'est pas mal, ça, cette expression. Parce qu'un globe n'a pas de coin, mais bon. En tout cas, cette dispersion internationale, elle inquiète davantage les spécialistes que le nombre même de personnes concernées. Ça veut dire que le virus des Andes possède en effet une incubation particulièrement longue qui peut atteindre jusqu'à 6 semaines, d'où le fait qu'on a isolé pendant 6 semaines les personnes en cas positif. Ça complique fortement le traçage des contacts, ça complique aussi le suivi sanitaire des passagers disséminés dans plusieurs pays. Alors, faut-il craindre une nouvelle pandémie, remettre en place des gestes barrières face au virus des Andes? Eh bien, pour l'instant, les autorités sanitaires internationales ne recommandent aucune mesure généralisée pour la population. L'OMS continue de juger le risque de pandémie faible. Face donc au risque de propagation du virus des Andes sur le territoire français, le gouvernement a publié, il y a une bonne semaine, un décret instaurant un protocole sanitaire renforcé pour les passagers, justement, du navire, ainsi que pour les personnes identifiées comme cas contact. La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a défendu des mesures très strictes, présentées comme les plus strictes de la zone européenne, avec pour objectif de casser les chaînes de transmission. Donc, le foyer de ce navire MV Mondius agit néanmoins comme un signal d'alerte, parce qu'il montre à quel point certains virus émergents qui émergent et qui sont longtemps restés sous les radars, ils peuvent soudainement devenir des enjeux mondiaux lorsqu'ils croisent une mobilité internationale, une promiscuité et des délais d'incubation prolongés. Donc on se retrouvait quand même face à une situation un petit peu particulière. Alors la question était de savoir, et elle est toujours de savoir, s'il y a un vaccin contre le virus des Andes, est-ce qu'il est prêt au cas où la situation dégénère? Eh bien, ça permet justement de savoir si on peut développer un vaccin contre les hantavirus. Alors, il n'y a aucun traitement spécifique ni vaccin expérimental et commercialisé qui existe aujourd'hui. Il y a plusieurs équipes qui quand même travaillent déjà sur des candidats de vaccins, y compris via une technologie qu'on avait évoquée au moment du Covid, qui était la technologie ARN messager. En tout cas, le virus impliqué dans le foyer du navire appartient à une famille des hantavirus du Nouveau Monde. Il s'agit du virus des Andes, l'ANDV, une souche circulant principalement en Argentine et au Chili, est particulièrement surveillée par les autorités sanitaires car elle reste la seule clairement documentée comme capable de se transmettre d'humain à humain. Il y a plusieurs programmes de recherche qui sont déjà en cours aux États-Unis contre le virus des Andes. Une étude qui était publiée en 2024 dans le journal The Journal of Infectious Diseases a notamment évalué un vaccin ADN expérimental contre le virus des Andes lors d'un essai clinique de phase 1 qui a été mené uniquement sur 48 adultes. Donc on est quand même sur un essai vraiment expérimental au tout début. Donc on n'est pas encore dans une commercialisation à grande échelle. Ça a été développé par des chercheurs d'un institut de recherche médicale de l'armée américaine. Et ce vaccin un petit peu candidat utilise un fragment génétique du virus afin de déclencher une réponse immunitaire. L'idée, c'est que pour certains vaccins, on nous injecte des petits morceaux de virus et notre corps, alors comme c'est des morceaux de virus, c'est pas le virus en entier, donc il est totalement inoffensif, mais notre corps va pouvoir réagir et produire les anticorps nécessaires. Comme ça, quand le vrai virus lui viendra, eh bien comme ça, on sera déjà un petit peu immunisé. C'est un petit peu ce qu'ils ont essayé de mettre en place au niveau de l'armée américaine. Lors des premiers essais, plus de 80% des participants auraient développé des anticorps neutralisants contre ce virus. Ce premier essai chez l'humain d'un vaccin candidat contre l'hantavirus a montré que il était plutôt sûr et que ça induisait une réponse immunitaire robuste et durable. C'est ce qu'évoque justement les responsables principaux de cette étude. Et donc ce vaccin expérimental nécessite toutefois plusieurs doses et reste encore loin d'une commercialisation, comme je vous l'ai dit. En parallèle, il y a plusieurs équipes qui explorent la piste donc des vaccins à ARN messager contre les hantavirus, mais les recherches les plus avancées ne concernent pas directement le virus des Andes qui a été impliqué donc dans ce navire. Il y a une étude qui a été publiée en mars, donc il y a deux mois, dans la revue Nature Communications, qui a notamment testé des vaccins à leur ADN et ARN messager contre un virus qui s'appelle Antaan, qui est un antivirus asiatique, celui-ci, responsable de fièvres hémorragiques sévères. Et les chercheurs, ils ont observé des réponses immunitaires prometteuses chez l'animal grâce à une technologie également utilisée dans plusieurs vaccins contre le Covid-19. Il y a Moderna qui collabore, on retrouve des noms qui nous avaient tellement accompagnés il y a quelques années, Moderna qui collabore également depuis 3 ans avec un centre de recherche coréen pour développer un vaccin expérimental, et puis il y a également d'autres dispositifs qui existent. En tout cas, aujourd'hui, pour l'instant, de ce que l'on sait, de ce qui a été communiqué, c'est qu'il n'y a aucun vaccin ARN messager contre le virus des Andes qui n'est disponible, mais cet épisode de ce navire pourrait accélérer les recherches autour de cette souche particulièrement surveillée par les autorités sanitaires. Ça va réveiller un petit peu tout ça. Et enfin, dernière information sur ce sujet, qui est une information toute récente, c'était de savoir si ce virus qu'on a identifié sur ce navire, est-ce qu'il est mutant ou est-ce qu'il n'est pas mutant ? Et la question agitait les autorités, justement parce qu'on pouvait s'inquiéter. Des doutes étaient survenus notamment à la suite du constat que l'état de santé des personnes infectées se dégradait de façon un peu anormale et de façon rapide après la survenue des premiers symptômes. Donc on s'était dit, ouh là, c'est bizarre, on n'a pas l'impression que c'est le virus que l'on avait identifié il y a 30 ans. Les équipes de l'Institut Pasteur ont donc annoncé il y a quelques jours qu'ils ont réalisé le séquençage complet de cette souche qui a été prélevée notamment chez la patiente française. Leurs analyses du génome indiquent que la séquence virale obtenue est identique aux souches du virus des Andes détectées chez les autres cas positifs identifiés à bord du bateau, mais surtout que ces séquences sont très proches des souches du virus des Andes qui étaient connues et qui circulaient donc dans le sud de l'Amérique latine. Ça veut dire qu'aucun élément ne suggère à ce stade l'émergence d'un variant particulier présentant des caractéristiques nouvelles, c'est ce qu'indique le communiqué de l'Institut Pasteur. Nous ne sommes donc pas face à un variant, ce qui est quand même plutôt, dans ce contexte, une bonne nouvelle, parce que si on a un variant, là, on peut être dans une situation qui peut vite se retrouver incontrôlable. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Selon l'OMS, le risque global pour la population générale est actuellement considéré comme faible, mais cet événement souligne, je cite, l'importance de la préparation, de la surveillance et d'une communication claire sur les risques. Voilà, donc apparemment on peut souffler, mais ça reste quand même toujours un peu sous surveillance, tout ça, bien sûr. En tout cas, depuis 2 semaines, je pense, à peu près, plus de nouvelles de l'antivirus. Voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait plus où est-ce que ça en est. Mais c'était important dans le cadre de cette émission de prendre un petit peu le recul, de voir ce qui s'est passé et de voir où est-ce qu'on en est maintenant. Il faut dire qu'on ne parle plus de l'antivirus parce qu'on parle maintenant d'Ebola. Ebola revient, entre guillemets, si je peux me permettre cette phrase. En tout cas, Ebola, c'est assez dramatique parce que ça démarre par une première phase grippale. Il y a des diarrhées sévères, il y a des vomissements, des douleurs thoraciques, il y a des hémorragies internes et externes. Ce sont les symptômes de la maladie d'Ebola qui sévit actuellement en République démocratique du Congo et en Ouganda. Cette pathologie qui est apparue pour la première fois il y a 50 ans en Afrique, c'est en 1976, sous la forme d'épidémie, c'était au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo, je vais y arriver. Eh bien, cette pathologie peut être provoquée par plusieurs virus d'une certaine famille qui s'appelle la filoviridée. Un virus à l'origine de seulement 3 épidémies à ce jour. Une épidémie qui est l'épidémie du virus Zaïre, Ebola virus. Le virus Ebola, c'est en fait celui qui est le plus connu. Il est à l'origine de 31 des 42 épidémies d'Ebola répertoriées en Afrique. On constate à peu près 15 000 décès, ce qui est quand même assez important. Un autre qui est, ils ont des noms assez compliqués, mais qu'on va plutôt appeler le virus Soudan. Il est à l'origine de 500 décès. Et un dernier qui s'appelle le virus Budimbungio, à l'origine de 2 épidémies qui a aussi entraîné la mort de plus de 200 personnes. Et en fait, c'est ce dernier virus, le Budimbungio, qui est en cause dans l'épidémie qui sévit actuellement République démocratique du Congo. Le problème, c'est qu'il n'y a ni traitement, spécifique ni vaccin. Et donc avec cette souche, le taux de létalité est très important. On peut aller jusqu'à 50%, c'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé congolais lors d'une conférence de presse. En fait, il a été découvert il y a 18 ans lors de l'épidémie en Ouganda. Le virus Budimbungio reste peu étudié par rapport au virus Ebola classique du Zaïre, parce qu'il était plus ravageur celui-ci. Il avait reçu les plus grands efforts de financement et de recherche lors de la grande épidémie de 2013 à 2016. Et donc, comme on s'est focalisé sur le virus Ebola, on ne s'est pas focalisé sur ce virus Budimbungio qui a donc été nettement moins étudié depuis. Aujourd'hui, il y a deux vaccins préventifs qui cible le troisième virus qui s'appelle le virus Zaïre, qui ont été approuvés. Mais pour le Budimbungio, les études sont encore en cours. Il y a plusieurs vaccins un peu candidats qui sont actuellement testés avec une efficacité plutôt prometteuse, nous dit-on. Mais les recherches n'ont été menées pour l'instant que sur les animaux. Donc on est quand même assez loin d'une expérimentation sur l'homme et ensuite d'une diffusion à grande échelle. Donc c'est un petit peu, on a un peu de retard. La mise au point d'un vaccin qui couvrirait les différentes espèces virales est également à l'essai. L'idée donc d'avoir ce vaccin un peu universel entre guillemets. Mais cette mise au point, elle représente un véritable défi en raison d'un très grand nombre de différences au niveau des antigènes par rapport à ces virus-là. L'idéal, c'est ça, ce serait d'avoir un vaccin qui puisse un petit peu combattre ces trois virus, Zaïre, Soudan et Budimbungio. Mais pour l'instant, ils sont quand même assez spécifiques et c'est assez difficile d'avoir un vaccin universel qui couvre les trois. Donc pour l'instant, c'est quand même assez compliqué. Ce virus circule actuellement en République démocratique du Congo. Il a provoqué, alors ça c'est une information qui date du début de cette semaine, donc je n'ai pas les derniers chiffres, mais on était quand même à 90 morts de fièvre hémorragique depuis le début du mois de mai. Et ça inquiète bien sûr l'OMS pour les raisons que pour l'instant on n'a toujours pas de vaccin pour cette souche-là. Voilà, on écoute un deuxième titre sur l'antenne de Graphite et on va continuer à feuilleter la revue de l'actualité scientifique. Tiens, on va parler de l'été qui arrive, on s'en rend compte, il fait très chaud. Et puis on va parler aussi de la Cité des Sciences qui fête ses 40 ans. À tout de suite.
And deadly, and we know where you're from. We are 17 and deadly, and we know where you're from.
Panic Attack, c'était Fang sur l'antenne de Graphite.
Jean-Noël Moreau, Guillotine sur Graphite.
Alors, on va parler d'été. Et en fait, quand on parle d'été, il y a trois manières de pouvoir définir cette saison. Soit on va plutôt parler de l'été calendaire, donc celui du calendrier, et c'est donc la date du solstice d'été et celle de l'équinoxe. Soit on va parler d'été météorologique, et dans ce cas-là, on est plutôt sur la période du 1er juin au 31 août. Soit on va parler d'un été qui correspond à une période pendant laquelle les conditions météo sont estivales. Et ça, bah, ça varie un petit peu d'une année à l'autre. Eh bien, c'est cette troisième définition de l'été qui évolue à grande vitesse en raison du changement climatique. C'est ce qu'annonce une étude publiée dans Environmental Research Letters. C'est un article qui date il y a un mois à peu près et qui a été relayé par Futura Science. Les chercheurs se sont basés sur une définition de l'été fondée sur les conditions climatiques historiques. Les étés aux latitudes moyennes s'allongent... Ah, je suis désolé, j'ai un chat dans la gorge qui ne veut pas partir. Les étés aux latitudes moyennes s'allongent et se réchauffent. Et les transitions de saison en saison sont plus abruptes de nos jours que au niveau des années 60 aux années 90 à peu près, c'est ce que déclare l'étude. Alors il y avait une précédente étude qui prouvait que la saison estivale s'était allongée de 4 jours en moyenne par décennie entre 1950 et environ les années 2000-2010. La tendance s'est encore plus accélérée ces dernières années, c'est ça qu'il faut voir. De 1990 à 2023, la durée moyenne de l'été a augmenté de 5 à 7 jours par décennie dans les terres, de même sur les côtes et les océans des latitudes moyennes. Ça signifie donc que les conditions estivales durent environ 30 jours de plus au milieu des années 2020 qu'au cours des années 60. Ça débute plus tôt, ça se termine plus tard chaque année. Les chercheurs ont pris pour exemple 10 villes réparties sur le monde entier, des grandes capitales qui ont toutes comme point commun d'être fortement affectées par le réchauffement climatique. Parmi ces villes, Paris, qui est considérée comme la ville, je cite, la plus mortelle d'Europe en cas de canicule à cause de son urbanisation inadaptée à la chaleur. Les chercheurs estiment que la capitale française a gagné en moyenne 7 à 8 jours supplémentaires d'été par décennie. C'est beaucoup, mais il y a d'autres villes à l'étranger qui ont vu leur saison estivale s'allonger de bien plus encore. Minneapolis, par exemple, aux États-Unis. Sydney, en Australie. Un Sydney qui a gagné jusqu'à 14 jours, 2 semaines supplémentaires d'été par décennie. C'est quand même énorme. Il y a d'autres villes au climat plus nordique qui sont aussi concernées. C'est le cas de Reykjavik en Islande, de Saint-Pétersbourg en Russie, qui peut avoir jusqu'à 10 jours d'été supplémentaire, Toronto, je vais y arriver, au Canada, qui peut avoir plus d'une semaine supplémentaire aussi d'été. L'Afrique, l'Asie sont aussi touchés, hein, comme Tokyo par exemple, ou alors Upington en Afrique du Sud. Les scientifiques ont aussi remarqué une transition saisonnière plus abrupte, c'est-à-dire un intervalle plus court entre les conditions printanières et estivales, ou entre les conditions estivales et automnales. Si certains peuvent être tentés de se réjouir à l'idée d'avoir des étés plus longs, eh bien, il faut quand même garder à l'esprit qu'un climat déréglé, c'est inévitablement, bien sûr, une nature déréglée avec des conséquences moins réjouissantes sur l'agriculture et sur l'économie. La saison de croissance des plantes aux latitudes moyennes a été modifiée, tout comme la gravité des sécheresses, la fréquence et l'intensité des vagues de chaleur, la demande en énergie pour les besoins de climatisation, mais aussi la croissance économique et la productivité. C'est ce qu'alertent les chercheurs. Donc, nous avons des étés qui sont de plus en plus longs et qui arrivent de manière brutale. Alors, on a un petit peu l'impression que c'est clairement ce qui est en train de se passer depuis 2 jours en France, avec ce week-end dernier qui était quand même assez pluvieux et froid sur l'ensemble du pays. Et là, on est quand même sur des températures très hautes, très importantes. Et de façon, voilà, il n'y a pas eu de transition. C'est une illustration un petit peu de ce que l'on constate. Là, on est sur des périodes de plusieurs décennies et qui confirment bien cette tendance, bien sûr.
Jean-Noël Moreau, Guillotine sur Graphite.
Alors, on va parler de la Cité des sciences et de l'industrie. C'est vrai qu'il y a longtemps que je n'ai pas évoqué les musées dans cette émission. Il y a quelques temps, je faisais quelques suggestions d'expositions que vous pouviez visiter dans certains musées, centres de culture scientifique un peu partout en France. J'ai un peu perdu cette habitude, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça me permet de revenir sur le sujet des musées scientifiques. Je ne peux que vous inciter à visiter un musée scientifique, c'est vraiment passionnant. C'est passionnant parce que ça parle de sujets très actuels, c'est adapté à tous les publics, c'est le but de ces musées scientifiques, c'est adapté bien sûr aux plus jeunes, mais également aux adultes avec des niveaux d'information spécifiques selon les publics. Ça permet aussi de se poser des questions sur certains sujets. Et l'un des espaces les plus appropriés pour cela, c'est la Cité des sciences. Et pendant 2 jours, le week-end prochain, 30 et 31 mai, le public est convié à explorer la Cité de demain à travers une programmation immersive et participative avec des ateliers qui vont mêler de la robotique, du numérique, des expériences collectives, des démonstrations. L'objectif, c'est d'imaginer le futur de manière concrète et ludique. Et il y a aussi l'idée de pouvoir personnaliser la façade du bâtiment, de participer au recyclage d'une tonne de vêtements, d'enregistrer une chanson générée par intelligence artificielle sur cassette. Il y a autant d'activités qui vont brouiller un petit peu les frontières entre innovation et créativité. Autre moment fort, nous dit-on, un face-à-face avec un robot dans une médiation scientifique interactive, avec donc l'occasion de pouvoir questionner en direct notre relation aux machines. Et pour les visiteurs nés en 1986, donc l'année d'ouverture de la Cité des sciences et de l'industrie, donc pour les personnes qui ont 40 ans en cette année, eh bien l'entrée sera gratuite sur présentation, bien sûr, d'un justificatif. L'anniversaire se prolonge au-delà du week-end prochain avec un cycle de conférences jusqu'au 19 mai. Des chercheurs, des experts vont un petit peu décrypter les grandes transformations des dernières décennies et vont esquisser un petit peu les défis à venir au niveau du climat, de la santé, de l'espace, du numérique. Il y a un ouvrage anniversaire qui accompagne également l'événement en retraçant 40 ans de médiation scientifique, d'innovation et de rencontres, une plongée dans l'évolution des sciences et de notre regard sur ces sciences, bien sûr. Alors depuis 4 décennies, la Cité des sciences et de l'industrie s'impose comme l'un des plus grands lieux européens dédiés à la culture scientifique, avec l'idée de pouvoir rendre les savoirs accessibles en privilégiant bien sûr l'expérience, des expos, des manipulations, des installations immersives. Le visiteur y devient acteur et c'est tout le but de la médiation scientifique, c'est de faire en sorte qu'il y ait une interactivité, que le visiteur soit le plus actif possible dans les expériences, qu'il puisse faire les expériences et que comme ça qu'on apprend et que l'on comprend. C'est tout l'intérêt justement de ces grands centres de culture scientifique. Vous pourrez explorer un sous-marin, décrypter le cerveau, comprendre les enjeux climatiques, s'initier aux technologies numériques. Bref, autant de portes d'entrée que vers les grandes questions contemporaines. Il y a aussi un planétarium avec des espaces interactifs qui va vous permettre, 40 ans après l'ouverture de la Cité des sciences, de donner à chacun les clés pour comprendre le monde. Et donc là, spécifiquement le week-end prochain, d'imaginer le monde de demain. Donc si vous ne savez pas quoi faire, le 30 et le 31 mai, donc le week-end prochain, vous pouvez visiter la Cité des sciences et de l'industrie pour fêter les 40 ans de cette institution. Voilà, ça je trouve vraiment intéressant, n'hésitez pas à y aller. Alors, autre article que je trouvais aussi assez intéressant, c'était de fait... Pardon, je suis vraiment désolé. C'est pénible d'avoir une voix comme ça qui n'est pas totalement assurée. Je voulais parler de cet article de Futura Science qui parlait de la préparation d'un voyage vers Mars. En fait, préparer un voyage vers Mars, ça ne va pas se résumer à concevoir des fusées plus puissantes, des combinaisons plus légères. Il n'y a pas que la technologie, parce que le maillon le plus fragile reste l'homme, et précisément le cerveau humain. C'est précisément ce que cherche à étudier une initiative de l'Agence spatiale européenne qui a démarré il y a 2-3 semaines, le 23 avril dernier, donc ça fait un mois à peu près, dans le centre aérospatial allemand à Cologne. Il y a 6 participants, ils ont entre 26 et 32 ans. Ils vivent enfermés pendant 100 jours dans cette installation scientifique sous étroite supervision. L'idée, c'est de tester les limites psychologiques et physiologiques d'un équipage coupé du monde. Donc l'équipe recrutée pour cette initiative ressemble un peu à une carte de l'Europe. Il y a un Allemand, une Néerlandaise, un Français, une Polonaise, un Portugais et une Italo-Allemande. Donc 3 hommes, 3 femmes, tous ont passé une batterie d'évaluation médicale, psychologique, physiologique avant d'être retenus parce qu'on ne s'enferme pas quand même 3 mois sur un coup de tête. Leur quotidien suit un emploi du temps calqué sur celui des astronautes en mission, au programme des expériences scientifiques répétées, des démonstrations technologiques, des tâches opérationnelles sous contrainte et une surveillance constante de leur état mental et physique. Mais la vraie difficulté n'est pas le travail demandé, c'est l'environnement dans lequel ils s'exécutent, c'est-à-dire un espace plutôt restreint, une absence totale de réseau, des contacts extérieurs qui sont plutôt filtrés. Il n'y a rien en fait qui ressemble à une vie normale. Et cette initiative n'étudie pas est aussi notable. Contrairement aux études d'alitement pratiquées par les agences spatiales, où il y a des volontaires qui restent allongés des semaines pour simuler les effets de la microgravité sur les os et sur les muscles, eh bien ici, l'agence spatiale européenne ne s'intéresse pas aux effets physiques de la pesanteur. C'est la tête, en fait, c'est le cerveau qui est sur le banc d'essai, et c'est ça qui est intéressant. La scientifique en chef de l'exploration à l'Agence spatiale européenne qui s'appelle Angelique Van Onbergen, elle identifie un défi particulièrement redouté, c'est le délai de communication entre la Terre et Mars. Ça, on en avait déjà parlé dans cette émission il y a quelques temps. Selon les positions respectives des deux planètes, un simple échange peut prendre jusqu'à 20 minutes. Donc dans les deux sens, ça dépasse les 40 minutes. Impossible donc d'appeler le centre de contrôle à Houston pour trancher une urgence en temps réel. Houston, on a un problème. C'est ce qu'il y a sur Mars. Le temps que ça arrive à Houston, il s'est passé 20 minutes. Si Houston a tout de suite la réponse, il répond tout de suite. On va considérer qu'il a la réponse et qu'il répond tout de suite. Il donne la réponse. 20 minutes plus tard, c'est-à-dire plus de 40 minutes après avoir posé la question, on a enfin la réponse. Il y a une urgence, c'est un petit peu compliqué. Et ce détail change tout sur le plan psychologique. Un équipage à 200 millions de kilomètres de la Terre sans filet de sécurité immédiat doit pouvoir gérer seul le stress, les conflits internes, les coups de blues. Et donc les chercheurs de cette expérience vont donc analyser en profondeur la gestion du stress, les performances cognitives sous pression, la qualité du sommeil, la dynamique de groupe et même aussi l'évolution du microbiome intestinal des participants au fil des semaines. Et comparer cela au séjour dans la Station spatiale internationale qui est à seulement 400 km d'altitude serait une erreur parce que la proximité, elle rassure, entre guillemets. Là, on est à plus de 200 millions de kilomètres. Il n'y a aucun retour rapide qui n'est envisageable. Il faut bien être conscient de cela. Donc, on est quand même sur totalement coupé du monde au sens propre du terme, en fait, quelque part. Cet éloignement n'est pas du tout rassurant. Les données collectées jusqu'à la fin de l'été 2026 permettront à l'Agence spatiale européenne d'affiner un petit peu les critères de sélection des futurs astronautes. Et l'idée aussi, c'est un petit peu de renforcer les protocoles d'accompagnement psychologique. L'enjeu financier, il n'est pas négligeable non plus dans cette affaire. Une mission habitée vers Mars représente plusieurs milliards d'euros et un membre d'équipage qui flanque en plein vol peut compromettre l'ensemble de l'opération. Donc cette expérience qui est menée, qui s'appelle Solis 100, rappelle une vérité simple. Avant d'envoyer des humains sur Mars, il faut d'abord savoir si leur esprit peut survivre au voyage. Et c'est tout l'objectif donc de cette expérience, de cet isolement confiné de plus de 3 mois. Ça se passe donc en Allemagne, avec l'idée de comprendre ce que l'esprit humain peut vraiment encaisser avant de craquer à des millions de kilomètres de la Terre. Je n'ai pas vérifié, mais je suppose qu'on peut suivre cette expérience en direct sur le site de l'Agence spatiale européenne. Vérifier, des fois, je pense qu'on peut peut-être, alors on n'aura peut-être pas des webcams, c'est pas l'idée, mais en tout cas, d'avoir un suivi, un compte-rendu de ce qui se passe pour ces 6 volontaires qui vont être enfermés pendant 100 jours en n'ayant aucun réseau. Eh oui. Est-ce qu'on serait capable de le faire? Ça, c'est vraiment toute la question. Hein, j'en sais rien. Moi, je crois que je ne serais pas... Pour moi, ça ne serait pas possible. Je ne sais pas. Ça va être assez compliqué. Une promiscuité, quand même, intérêt à bien s'entendre. Hein. On ne nous dit pas si, par exemple, ces 6 personnes se connaissaient déjà auparavant. À voir, bien sûr. Eh bien, écoute, on suivra peut-être dans les prochaines semaines, on verra un petit peu les résultats, sûrement à la rentrée de septembre, on verra un petit peu les résultats de cette expérience et voir ce que cela a donné. Voilà, eh bien c'était Biotine sur l'antenne de Graphite. Je vais rendre l'antenne, bien sûr, comme ça on va continuer à écouter un peu de musique sur l'antenne de Graphite, le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM. Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Je vais essayer de soigner ma voix pour vous retrouver samedi prochain 12h pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. D'ici là, bah, profitez du soleil, hein, de la chaleur. Profitez, soyez prudents bien évidemment. Et on se retrouve samedi prochain. Et donc d'ici là, en profitant du soleil, vous profitez bien sûr de l'ensemble des émissions de Graphite, votre radio curieuse. Je vous souhaite une bonne journée. À samedi prochain. Au revoir.